Nous allons terminer avec une petite réflexion sur l'inspiration divine. Il ne faut pas confondre l'inspiration divine avec la locution directe et avec l'écriture automatique. Le Concile Vatican II, dans sa constitution dogmatique Dei Verbum, la parole de Dieu, traite ainsi de l'inspiration et de la vérité des Écritures saintes. Les réalités divinement révélées, qui, dans la Sainte Écriture, sont contenues et exposées par écrit, ont été consignées sous le souffle de l'Esprit Saint. En effet, les livres entiers, tant de l'Ancien que du Nouveau Testament, avec toutes leurs parties, la Sainte Mère Église, de par la foi apostolique, les tient pour sacrés et canoniques, du fait que rédigés sous l'inspiration de l'Esprit Saint, ils ont Dieu comme auteur et ont été transmis à l'Église comme telle. Voilà, donc j'ai mis en caractère gras, sous le souffle de l'Esprit Saint, rédigé sous l'inspiration de l'Esprit Saint, Dieu comme auteur. Mais pour composer les livres saints, Dieu a choisi des hommes qu'il a employés eux-mêmes, usant de leurs facultés et de leurs forces propres. De sorte que, agissant lui-même en eux et par eux, ils transmettent par écrit, en véritables auteurs, tout et cela seulement que lui-même voulait. Je reprends la phrase. Pour composer les livres saints, Dieu a choisi des hommes qu'il a employés, eux-mêmes usant de leurs facultés et de leurs forces propres, donc ils vont avoir leur style, la façon de s'exprimer, etc., de sorte que, agissant lui-même en eux et par eux, ils transmettent par écrit, en véritables auteurs, ils demeurent des véritables auteurs, tout et cela seulement que lui-même voulait. Donc, puisque tout ce que les auteurs inspirés ou les hagiographes affirment doit être tenu comme affirmé par l'Esprit Saint, il s'ensuit qu'il faut confesser que les livres de l'Écriture enseignent fermement, fidèlement et sans erreur la vérité que Dieu, en vue de notre salut, a voulu consigner dans les saintes lettres. C'est pourquoi toute Écriture est inspirée de Dieu. Donc tout est vrai, mais vous avez remarqué qu'on prend soin d'affirmer quand même la vérité de Dieu en vue de notre salut. Donc c'est pas absolument utile de penser que la création a eu lieu en 7 jours pour être sauvée, n'est-ce pas? Il faut bien distinguer ce qui est de la vérité de l'ordre du salut de la vérité scientifique, c'est pas la même chose. Donc voilà un passage du Concile Vatican II sur l'inspiration divine, où il est affirmé que les livres bibliques sont écrits sous le souffle de l'Esprit, qu'ils sont rédigés sous l'inspiration de l'Esprit, ayant Dieu comme auteur, mais en même temps que ça se fait à travers des hommes qui sont de véritables auteurs, qui utilisent leurs facultés et leurs forces propres. Et donc les deux choses, les deux inspirations, les deux réalité se mélange l'une à l'autre. Il ne faut donc pas tenir pour prendre pour argent comptant, si vous voulez, l'iconographie qui nous montre l'inspiration divine des auteurs sacrés, des livres saints, comme une dictée. Vous avez certainement vu des tableaux où on voit un ange qui s'approche de saint Matthieu, par exemple, et qui lui souffle à l'oreille les mots qu'il a à écrire. Ce n'est pas cela l'inspiration. Ce n'est pas une dictée. S'ils ont usé de leurs facultés et de leurs forces propres, s'ils ont transmis par écrit en véritables auteurs la vérité biblique, comme l'affirme le Concile Vatican II, il faut alors exclure deux procédés qu'on nous présente comme des procédés d'inspiration divine, l'écriture automatique et la locution directe. Donc l'écriture automatique, on a lu ce texte de Wikipédia tout à l'heure, et je dis ceci, ce procédé est repéré dans certaines révélations privées, comme celle de Mme Vasula Riden, qui écrit une 20aine de volumes, dicté par Jésus, n'est-ce pas? Mais contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire, le type de transmission des messages dont il s'agit ici n'a pas de précédent dans l'histoire de la spiritualité et de la mystique, que ce soit chez Thérèse d'Avila ou chez d'autres saints mystiques. Il n'y a pas de précédent. De plus, il est tout à fait vain d'essayer d'identifier l'écriture de Vassila Ridan et celle de Catherine de Sienne, comme certains veulent le faire croire. Catherine de Sienne qui aurait écrit certaines lettres de sa propre main tout en étant un alphabète. Dans les deux cas, si l'on suit les défenseurs de Vassila, nous serions en présence de l'écriture guidée, d'une main qui s'actionnerait par elle-même. Rien de plus erroné, puisque sainte Catherine de Sienne, comme c'est arrivé aussi à Rose de Lima, sainte Rose de Lima, s'est mise à écrire comme si elle avait toujours su le faire, en un instant, sans que sa main n'ait eu besoin d'être guidée continuellement par un agent extérieur. Tout comme le boiteux guéri par Jésus s'est mis à marcher avec ses jambes, se mettant en mouvement comme s'il avait toujours marché. Il ne fut pas transformé en une marionnette fonctionnant en vertu de l'action de quelqu'un qui tire les ficelles de l'extérieur. Ce même procédé d'écriture automatique est donc utilisé dans l'accueil de messages d'enfants décédés comme Arnaud ou Jean, qui demande à son père, tous les matins, tu me consacreras 1 heure et demie de ton temps, et par ce moyen d'écriture directe, j'aurai l'occasion de te dicter les instructions du Très-Haut. Et le père écrit au fur et à mesure des mots, des phrases qui sortent de son esprit, etc. On a lu cela. Quant à la locution directe, c'est le pendant, si vous voulez, par oral, de l'écriture automatique. Lors de certains rassemblements de prières, des tenants d'une présence particulière de la Vierge Marie affirment que celle-ci s'exprime directement par la bouche de la personne qui reçoit les messages. Ça se passait pas très loin d'ici, à Valette, à la limite du Maine-et-Loire et de la Loire-Atlantique. Cette dame s'appelle Marie-Pierre Laure, elle a fondé ce qu'on appelle les Cénacles de Valais, et c'est ce que j'appelle personnellement la locution directe, pendant verbal de l'écriture automatique. Heureusement, jamais l'inspiration divine n'abolit d'une façon aussi radicale le psychisme et la personnalité de l'écrivain sacré ou du prophète. Elle les respecte, au contraire. Donc, qu'est-ce qui s'était passé là? À Valette, il y avait certainement de la manipulation et du consentement à la manipulation, mais il n'est pas exclu qu'il y ait eu aussi de l'hypnose ou du spiritisme. Donc, dans ces cas-là, quand on se trouve dans des cas comme ceux-ci, il faut aller chercher à explorer certaines autres pistes, comme le spiritisme, par exemple. Allan Kardec, le fondateur du spiritisme, qui est enterré au cimetière du Père-Lachaise, dans son livre « Des esprits », dans l'introduction, dit ceci, « Les esprits exercent sur le monde moral et même sur le monde physique une action incessante. Ils agissent sur la matière et sur la pensée et constituent une des puissances de la nature, cause efficiente d'une foule de phénomènes. Les relations des esprits avec les hommes sont constantes. Les communications des esprits avec les hommes sont occultes ou bien ostensibles. Les communications occultes ont lieu par influence bonne ou mauvaise qu'ils exercent sur nous à notre insu. Les communications ostensibles ont lieu au moyen de l'écriture et de la parole, vous voyez les deux, l'écriture et la parole, ou d'autres manifestations matérielles, le plus souvent par l'intermédiaire des médiums qui leur servent d'instruments. Les esprits se manifestent spontanément ou sur évocation. Voici ce qu'écrit donc le fondateur du spiritisme, Allan Kardec. N'oublions pas non plus la possibilité de l'utilisation de l'hypnose. L'hypnose, en tant qu'elle est une sorte d'ouverture médiumnique, peut ouvrir la personnalité d'un homme à quelque chose pouvant échapper au contrôle, souvent par le fait de la transgression des domaines immanents et intérieurs de sa personnalité. Cette possibilité est confirmée même par la pratique empirique ou médicale, quand la soi-disant hypnose clinique ou médicale, de façon totalement inattendue et même non désirée, se vérifie exactement les expériences liées à la réincarnation. Celui qui participe à une telle expérience est convaincu d'expérimenter ses propres incarnations précédentes ou d'autres expériences de caractère spirit. Mais voilà, chaque cas est évidemment particulier, donc il faudrait faire une enquête assez approfondie pour y voir clair. Voilà, je vous ai donné donc quelques éléments de réflexion sur la question « Peut-on être en communication avec les esprits des morts ? Peut-on communiquer avec nos défunts ?» Mais j'imagine que vous avez quelques questions que vous souhaiteriez poser ou quelques expériences que vous souhaiteriez partager.